VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Épidémie de coronavirus en Chine, le président Xi Jinping a effectué ce mardi sa première visite à Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei, dans le centre du pays où le nouveau coronavirus est apparu en décembre. La propagation de l'épidémie est pratiquement jugulée, a déclaré le leader chinois. La quasi-totalité du territoire provincial était bouclée depuis fin janvier par un cordon sanitaire et plus de 50 millions de personnes avaient interdiction de sortir des limites de leur commune. Mais suite à la forte réduction du nombre de nouveaux cas dans cette province qui concentre l'essentiel des cas de COVID-19 enregistrés à l'échelle mondiale, les autorités chinoises ont annoncé aujourd'hui une levée partielle des restrictions aux déplacements. Mais les habitants ne sont toutefois pas encore autorisés à quitter le Hubei et la mesure ne s'applique pas à Wuhan, le chef-lieu provincial. Ailleurs dans le monde, le COVID-19 continue de se propager rapidement. La crise sanitaire prend de l'ampleur en Europe et ici aux États-Unis, Mark Meadows, nommé il y a quelques jours par le président Donald Trump pour devenir son nouveau directeur de cabinet, est actuellement en quarantaine volontaire après avoir été potentiellement en contact avec une personne testée positive. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Mark Meadows serait entré en contact avec un participant testé positif à la grande conférence conservatrice CPAC. Il restera en quarantaine volontaire pour 14 jours. Il ne présente aucun symptôme et un test de précaution s'est révélé négatif d'après son porte-parole. 5 élus du Congrès américain avaient auparavant annoncé s'être mis eux aussi en quarantaine volontaire. 4 d'entre eux ont été exposés au virus, comme M. Meadows, lors de cette conférence près de Washington. Et parmi eux, au moins 2 républicains ont eu des contacts avec le président Donald Trump après avoir été exposés. L'épidémie a touché plus de 600 personnes aux États-Unis et fait au moins 26 morts. Ailleurs dans le monde, le président du Conseil italien Giuseppe Conte a étendu lundi soir à toute l'Italie des mesures de restriction prises ce week-end dans le Nord. Prolongation jusqu'au 3 avril de la fermeture de toutes les écoles et universités, interdiction des rassemblements publics et suspension de tous les événements sportifs. Avec 97 décès supplémentaires en 24 heures, l'Italie dénombrait lundi soir 463 morts liés au coronavirus pour un total de 9172 cas confirmés. En France, le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif au coronavirus qui a encore progressé lundi dans l'Hexagone vers le stade de l'épidémie causant au moins 25 morts.
Actualité américaine, course à la présidence américaine avec la suite des primaires démocrates. Après une série de victoires sans appel lors du Super Mardi la semaine dernière, l'ex-vice-président Joe Biden espère prendre un avantage décisif sur son rival Bernie Sanders aujourd'hui à l'occasion de leur deuxième duel dans 6 États, à savoir Michigan, Missouri, Mississippi, Idaho, Dakota du Nord, plus l'État de Washington. L'ancien numéro 2 du président Barack Obama, dont les débuts de campagne avaient été difficiles, a repris la tête de la course destiné à désigner l'adversaire du président républicain Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Mais le sénateur démocrate socialiste Bernie Sanders n'est pas du tout prêt à jeter l'éponge.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
La lutte contre les djihadistes au Cameroun, Amnesty International, l'organisation de défense des droits humains basée à Londres, a demandé lundi aux autorités camerounaises d'ouvrir une enquête sur la disparition forcée de 130 personnes dans le nord du pays en 2014, au plus fort de la lutte contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le point avec Eric Maniakiza.
Selon Amnesty International, 130 hommes et garçons ont été arrêtés arbitrairement dans leur village du nord du Cameroun il y a plus de 5 ans et leurs proches sont sans nouvelles depuis. Pendant ce raid, 8 personnes ont été tuées, dont un mineur et plus de 70 bâtiments réduits en cendres, souligne l'organisation, précisant que c'est après cet assaut que plus de 130 villageois ont disparu. À l'époque des faits, les autorités avaient reconnu l'arrestation de 70 hommes seulement et que 25 sont morts durant leur première nuit de garde à vue à la gendarmerie. Amnesty affirmait que l'identité des personnes décédées ou le lieu où se trouvent leurs dépouilles n'avait pas été été révélée. Ni l'armée, ni le gouvernement n'ont réagi au rapport d'Amnesty, mais lors d'une conférence de presse lundi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a accusé plusieurs ONG internationales, dont Amnesty, d'être engagées dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Face à la fréquence des attaques de Boko Haram, Yaoundé avait déployé des milliers de soldats dans l'extrême nord du Cameroun dès 2014 pour y combattre les djihadistes. Plusieurs ONG avaient accusé l'armée d'exactions contre des civils.
Génocide de 1994 au Rwanda. En France, le Sénat a organisé lundi un colloque sur l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs. Des discussions visant à réfléchir sur les responsabilités dans le génocide rwandais de 1994. Ce colloque a provoqué la controverse et s'est attiré les foudres de Kigali. Les autorités rwandaises estiment que l'événement a donné la parole à des personnalités connues pour leurs théories négationnistes. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibou a joint hier l'historienne et spécialiste du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, Hélène Dumas.
C'est très paradoxal de voir que, par exemple, l'histoire du génocide des Tutsis, l'histoire des politiques judiciaires qui ont été appliquées après l'événement vont entrer dans les programmes scolaires en France à la rentrée prochaine, et que dans le même temps, on a un colloque qui est organisé donc sous les ordres du Sénat avec des personnes dont les propos à la fois oraux et écrits n'ont eu de cesse depuis près de 25 ans de remettre en cause la réalité même, la réalité historique du génocide des Tutsis, d'en proposer des interprétations biaisées visant à en minimiser la portée. Donc je pense que le scandale vient de là. Il vient d'une part du fait qu'on donne une tribune publique à des auteurs connus pour leurs propos négationnistes, et cette tribune qui plus est une tribune, je dirais, officielle, puisqu'il s'agit du Sénat français, hein, d'une instance représentative française, même si le Sénat, par ailleurs, s'est défendu d'avoir lui-même organisé ce débat. Il l'a à tout le moins accueilli. Et je pense que c'est les deux éléments qui font scandale.
Il y a eu réaction également du côté de Kigali. Le président du Sénat a écrit au président du Sénat français pour demander que le colloque soit annulé. Et aujourd'hui, les autorités rwandaises ont réagi. On sent une certaine colère. Est-ce que cela vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas du tout. Alors après, il faut distinguer la réaction politique du Rwanda et des autorités françaises, et puis les réactions intellectuelles et civiques. Là, je pense aussi qu'en tant qu'historien, en tant que chercheur sur l'histoire du génocide des Tutsis, on peut être aussi légitimement scandalisé par la tenue donc d'un tel colloque. Il faut quand même rappeler ce que deux des auteurs invités dans les tables rondes disent du génocide des Tutsis. Je prendrai par exemple le cas de Charles Onana, qui, dans un de ses ouvrages paru en 2009, au titre suffisamment explicite, ces tueurs Tutsis, eh bien, présentait toutes les femmes Tutsis comme des armes du FPR, du Front Patriotique Rwandais. Quand on sait le sort qu'ont connu les femmes Tutsis pendant le génocide, c'est-à-dire qu'elles ont été violées de manière systématique et que les trois quarts d'entre elles sont aujourd'hui infectées par le VIH, eh bien, c'est des propos absolument intolérables. Ou lorsque Jody Rever explique dans son livre, dans un chapitre qui s'appelle « La cinquième colonne », que les civils Tutsis, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique du FPR, ont mérité leur sort, en quelque sorte, parce qu'ils étaient tous des militants du FPR, eh bien, ces propos sont tout simplement scandaleux.
Pensez-vous que cela va avoir des conséquences sur les relations entre Paris et Kigali ?
Alors, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est vrai que le constat que l'on peut faire, que l'on peut établir, c'est que ce colloque intervient, là encore, dans un moment très particulier de réchauffement des relations entre Kigali et Paris. Je dirais sur ce point que, évidemment, l'exécutif français n'a pas prise sur la représentation nationale, le Sénat, mais il est vrai que un peu de courage politique de la part du Sénat aurait sans doute permis que ce colloque n'ait pas lieu, et il intervient vraiment dans un moment où les relations semblaient s'améliorer, et c'est un peu contradictoire avec tous les gestes de réconciliation très patientes qui ont été posés ces dernières années.
Hélène Dumas, chargée de cours au CNRS et spécialiste de l'histoire contemporaine rwandaise, joint lundi en France. Et pour terminer, la République démocratique du Congo suit le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola prévue le 12 avril en surveillant de près les ex-patients qui pourraient encore porter le virus dans leur liquide séminal. C'est ce qu'ont indiqué lundi les autorités sanitaires congolaises. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 21 jours et la dernière patiente souffrant d'Ebola est sortie le 3 mars de centre de traitement anti-Ebola à Beni. province du Nord Kivu, l'un des épicentres de l'épidémie dans l'est de la RDC. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.